Non, si tu veux, pour te raconter les deux éléments, je reviens là-dessus, qui m'ont décidé de ne pas retourner à Tokyo et de partir vers Osaka et d'essayer de trouver un avion à Osaka. Donc l'un des éléments, c'était ce mail perso d'un conseiller de l'ambassade qui me disait explicitement qu'il était d'accord avec le fait que je relève la contradiction de la position officielle de l'ambassade, qui d'une part conseillait de quitter la région de Tokyo, mais qui d'autre part se taisait par rapport à l'aéroport, à 80 km au nord de Tokyo, direction de la centrale, d'où partaient tous les vols.
Ouais.
Et donc moi je lui posais cette question-là, et le mec m'a répondu très clairement que j'avais raison, quoi, de poser cette question. Voilà. Et il m'a dit de partir quoi, le plus rapidement possible. Mm-hmm. Et le même soir, il y avait conférence de presse des gens de la TEPCO, la compagnie d'électricité. Et là, le spectacle était absolument hallucinant à la télé. Tu avais les trois mecs de la TEPCO sur la table au premier rang, le chef au milieu, deux acolytes, et derrière, deux autres. Tout ça en japonais, je ne comprends pas. Bon. Le mec, le chef, tient fait un discours, il lit en fait un papier.
Il y a une espèce de blouse comme ça, bleu, ouais, ouais. Qu'on l'a vu en extrait à la télé, donc là on a un peu de traduction. Mmh.
Donc il lit un discours.
Imperturbable. Hein.
Je dirais pas ça. Et il termine son discours, et première question d'un journaliste, je comprends pas la question, sauf que le mec est perturbé, il n'arrive pas à répondre, il est là, il est gêné, et c'est le voisin qui commence à balbutier quelque chose et qui tourne les papiers, qui cherche dans ses papiers, qui ne trouve pas la réponse
en direct
à la télé, conférence de presse. Et là-dessus, le chef au milieu qui s'impatiente, mais qui n'a pas de réponse non plus à donner. Et puis tu as un mec derrière qui intervient pour apparemment dire une généralité, pour sauver les meubles,
pour calmer les journalistes.
Mais là, j'ai compris que tu n'as plus de pilote, quoi, j'en avais. Voilà.
Et donc tu es parti de Nagoya, ça, non?
Moi je suis parti de Osaka.
Osaka. Dans une compagnie.
En l'occurrence, je suis parti avec la même compagnie avec laquelle je suis arrivé,
KLM,
mais j'avais un billet pour Narita. Or j'avais exclu de repartir à Narita parce que j'avais mon vol le jeudi. Et les risques de contamination étaient extrêmement grands en raison du sens des vents. D'ailleurs, c'est ce qui s'est passé depuis on a les mesures. La Tokyo a été contaminée 40 fois plus en iode et en césium que la zone la plus contaminée en France au moment de Tchernobyl, à savoir un Mercantour. Ça, c'est ce que Tokyo a déjà trinqué
40 fois. C'est pour ça qu'en ce moment, il parle des légumes qu'il vaut mieux pas consommer.
Voilà. Mais sur place, voilà. Et donc là, c'était la première contamination importante de Tokyo, et le lendemain, rebelote, mais un peu moins.
Alors, il n'y a pas d'affolement des gens, semble-t-il. Enfin, c'est pour les images qu'on voit là-dessus.
Mais
avec des masques, mais bon.
Non, mais les masques, c'est pour les maladies. Hein. Les gens, quand ils ont la crève, ils mettent un masque. Non.
Il n'y en a pas plus avec les nucléaires. Non. Oui, ça, c'est pas efficace.
C'est un peu habituel en hiver. Hein. Non, mais si tu veux, le truc, c'est que, comme je te l'ai déjà dit, en termes de risque, c'est pas le terme. Le grand problème, c'est l'incertitude. Pour moi, c'est le mot-clé. C'est l'incertitude, c'est qu'est-ce qu'on fait par rapport à l'incertitude.
Partir, rester,
aller. Partir, rester, voilà, exactement. Et donc, on est en permanence confronté à ça. Oui. Et j'ai évidemment fait une erreur. L'erreur, a posteriori, on s'en rend compte, c'est que j'aurais dû, évidemment, dès le premier jour que j'ai appris qu'une centrale nucléaire était avariée, partir immédiatement. Et je n'ai pas le réflexe, vu que j'avais un billet d'avion qui m'attendait quelques jours plus tard.
Oui, et donc, partir de
Mais je n'ai pas eu ce réflexe.
Mais le problème, c'est que ça, c'est valable pour les étrangers.
Les
Japonais, eux-mêmes, c'est là.
Parce que
là, ils partent, on le dit.
Mais bien sûr.
Au sud, ou même
bien sûr.
Ailleurs. Hein.
Moi, j'ai rencontré les premiers le samedi matin au petit déjeuner dans l'hôtel où j'étais à Taïoma. Et c'était un couple, parlait anglais, c'est eux qui sont venus vers moi et ils m'ont dit clairement qu'ils étaient refugees from Sendai Et eux, ils ont dit, nous, on avait une voiture, elle n'était pas abîmée. On a de l'argent.
On est parti. Ouais. Il y avait plus de
mais ils sont partis tout de suite. Mmh. Et ils se retrouvaient là, à Toyama. Mmh. Et leur objectif, c'était d'aller dans le sud et éventuellement en Chine. Ouais. Eux m'ont dit explicitement.
Ça suppose d'avoir les moyens aussi. C'est bien les riches qui peuvent faire ça. Hein. Les ouvriers, les paysans et tout ça.
Ceux qui ont ou les moyens, ou l'information, ou les deux.
Oui.
Ben c'est ça. Et les gens que j'ai rencontrés, et si tu veux, les gens que j'ai vus à Toyama, à Kanazawa, ensuite à Nagoya ou à Osaka, c'était systématiquement des gens qui étaient ou jeunes, qui utilisaient Internet, ou qui étaient à l'étranger à un moment ou à un autre et qui parlaient anglais, et donc qui avaient des infos aussi ailleurs. Mais cela dit, on ne peut pas dire qu'on n'était pas informés. Par les chaînes japonaises.
Oui, mais même à France, on se demande qu'est-ce qu'on doit faire.
Le problème, il est là. C'est qu'on ne s'imagine pas le pire, on se dit que ça va être maîtrisé, jusqu'au moment où on se rend compte, merde, que c'est l'emballement, ils ne maîtrisent plus rien. Et ça,
Ils le masquent toujours.
Non, ça, tout le monde l'a compris, qu'ils ne maîtrisaient plus rien le dimanche soir. Donc ça va très vite.
Bon, donc, c'est combien de jours après, ça commence
à deux jours. Le vendredi après-midi, tu as le tremblement de terre.
Ensuite, tu as
le tsunami dans les 35 à minutes et à une heure après, voilà la zone touchée. Et le fait qu'une centrale est touchée, on la prend pratiquement dans la foulée.
Ah, ouais.
On la prend très vite. Mais le degré de gravité, on ne le mesure pas.
Ouais. En plus, il faut le connaître.
On ne le mesure pas.
Bien en France,
par contre, moins de deux jours après, on a suffisamment d'éléments pour savoir qu'on est face à un truc hyper grave et que ça peut aller très très loin.
Alors, j'ai entendu tout à l'heure à la radio qu'il y avait semble-t-il un problème entre l'information qui vient du gouvernement national et l'information des autorités locales. Ils ne disaient pas la même chose, semble-t-il.
Cette contradiction-là, elle s'est exprimée aussi dans le fait que le gouvernement d'une préfecture a rendu public qu'il s'opposait à la construction d'une centrale qui était prévue dans la préfecture en question. Donc ça, le gouvernement local s'oppose à la construction. Donc ça permet de voir les contradictions.
C'est pas chez nous que ça arrive,
Si, je pense que ça peut arriver
en
aussi.
France, oui. Il y a du gouvernement local, c'est quoi, une région
C'est l'équivalent d'un conseil général ou d'une région, oui.
On les entend pas beaucoup là.
Non.
Les nôtres.
Non, surtout que la France, il faut quand même être sérieux.
Il y a eu 10 000 personnes à la manifestation entre Neuilbourg et Chalampé.
Ah ouais, donc c'est normal.
Moi j'étais, parce que j'étais occupé, je suis allé à Colmar devant la préfecture, on était 300.
D'accord.
C'était le CSFR, là. Parce qu'on gardait la plaine du Rhin et Fessenheim. Mais par contre, entre Chalampé et Neuilbourg, il y avait les Allemands, les Suisses, les Français, 10 000 personnes.
Ben, c'est normal.
Ça fait longtemps qu'il n'y a pas eu de référendum.
Ben, c'est normal, parce que qu'il y ait beaucoup d'Allemands, c'est tout à fait normal. Je devant tout que vers
nous. 10 000 Allemands, les 1 000 par le journal. Hein. Mmh. Il faut bien voir les choses. Hein. Nous, on a les têtes nucléarisées. Hein.
Oui, mais je te rappelle, parce qu'on se connaissait à l'époque, en 77, on avait réussi à empêcher la construction d'un centre à Gerstheim.
Ah, et Gerstheim. Oui, Gerstheim.
À côté de Strasbourg, qui était programmé.
Et ensuite, l'autre de l'autre côté.
Absolument, oui.
On avait occupé le terrain.
Après,
avec les
chantiers. Non, ce qui fait aussi, si tu veux, que je maîtrisais, pas bien, superficiellement, mais j'avais quand même une petite idée de ce qui se passait. Et les éléments d'infos qui passaient montraient quand même qu'on était au degré de gravité extrême.
Non, mais alors, psychologiquement, moi, tu avais une inquiétude, quoi.
Non, moi j'étais honnêtement, j'étais resté relativement calme. La seule chose, et ça c'est monté en crescendo, c'est que l'incertitude devenait une incertitude de plus en plus forte dans la mesure où un accident majeur était possible.
Ouais, on ne sait pas quand ça arrive.
Voilà. Et moi, ce que je craignais le plus, c'était les conséquences l'accident majeur, parce que moi, j'étais dans une zone qui n'était pas touchée par le tremblement de terre et pas touchée par le tsunami, qui fonctionnait normalement, pas de coupure d'électricité, tous les trains étaient à l'heure, etc. etc. Mais je pouvais déjà mesurer, quand je me déplaçais en train, que les trains qui descendaient étaient beaucoup plus remplis que les trains qui montaient.
Ah.
Ça, je pouvais mesurer de jour en jour. Et à Osaka, la nuit du mardi à mercredi, tous les hôtels étaient complets. Alors, moi, comme j'allais dans la même chaîne, je réservais toujours la veille ou l'avant-veille pour être sûr d'avoir une chambre d'hôtel suivante. Voilà. Mais il y avait de plus en plus de monde qui descendait. Alors dans l'avion, c'était intéressant.
C'est l'avion qui partait pour les Pays-Bas.
Ouais,
pour que pour Amsterdam.
Il y avait principalement, beaucoup de Français, beaucoup de couples mixtes, beaucoup de Français expatriés qui travaillaient sur place, notamment les gens du CNRS. Le CNRS avait ordonné le rapatriement de tout le monde la veille. Mais donc eux avaient des places.
Mais il y a eu des avions aussi affrétés par le gouvernement français.
À ce moment-là, non.
Mais tu n'étais pas au courant de ça?
C'est venu après mon retour. Le premier avion...
Des centaines de personnes sont parties gratuitement.
Mais ça, c'était le vendredi. Ça, c'était le vendredi. Moi, j'étais rentré le mercredi soir. Et ce qui est incroyable, c'est qu'ils aient attendu vendredi. Alors qu'ils connaissaient les risques au moins aussi bien que moi.
Là, ils ont été 40, quoi, d'après toi.
À mon avis, ils n'ont pas réagi assez vite. À mon avis, ils auraient dû détourner tous les vols d'Air France, etc., sur Narita ou Nagoya. Nagoya a la capacité, c'est déjà suffisamment loin. Osaka a des capacités belles grandes.
Ils avaient à disposition des gens qui voulaient rentrer.
Et à partir d'un aéroport sûr, relativement en tout cas. À Narita, on était certain qu'il était contaminé et que les gens ont été irradiés. Non, on a une certitude, les équipages ne dormaient plus sur place. Les équipages partaient en avion après avoir atterri à Narita, à Osaka. Et remontaient en avion avant de redécoller.
Voilà.
Absolument.
Oui, donc là c'est clair.
Absolument. Non mais je veux dire, c'était délirant. La première compagnie qui a arrêté de desservir Narita, c'était avant mon départ, c'était le lundi, c'était Air China. Air China a décidé de ne plus desservir en considérant que c'était trop dangereux. Et ils avaient parfaitement raison. C'est le mardi qu'il y a eu la première grande contamination radioactive.
Et puis là, en ce moment, il y en a tout le temps. Il y a des trucs qui se dégagent.
Et le problème, c'est qu'ils ne maîtrisent pas.
Ouais.
Enfin, tu vois bien comment ils essayent de...
Enfin, ils ont réussi à, jusqu'à présent, du moins, éviter la fusion du cœur du réacteur.
Il y a des doutes pour un réacteur.
Il y en a un sans doute
qui a commencé. Mais bon, moi je ne suis pas spécialiste. Mais bon, Tokyo c'est 35 millions d'habitants, le grand Tokyo.
36 millions.
35 millions.
La conurbation du Tokyo
est très très grande. Et donc le problème qui se pose, c'est pas comment tu...
Comment on va les évacuer.
Et donc, ils prennent le risque à l'heure actuelle.
Ils laissent sur place pour l'instant.
Bien entendu. Il n'y a que quelques-uns qui se sont barrés. Là, le collègue, moi j'ai fait pression d'ici. Moi je suis rentré mercredi soir. Le même soir, je suis allé voir un Japonais qui est ici à Strasbourg pour le convaincre de ne pas repartir le lendemain parce qu'il avait un vol et on m'avait mis au courant par téléphone. Donc je l'ai vu. Ouais. Le problème, c'était de trouver l'argument pour qu'il ne rentre pas. Je te dirai ça après.
Par rapport à l'entreprise, quoi.
Ouais.
Ou qui l'emploie.
Voilà.
C'est ça, ouais.
Et bon, on a un peu...
Donc, mon ami Akiko Kawasaki, par chance, qui habite Tokyo, qui enseigne à l'université, il se trouve qu'elle est à Paris avec son mari.
Oui, et...
Elle n'a pas fait exprès,
mais qu'elle ne prenne pas l'avion pour rentrer maintenant, qu'elle attend un...
Je vais lui mêler.
Et je te donnerai la solution pour qu'elle arrive à dire non, je ne rentre pas. Il y a un truc.
D'accord.